Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, chers frères, il va être question de foi, ça, à n'en pas douter, mais je voudrais lier cette question de la foi, raison de l'évangile que nous venons d'entendre, avec celle de la famille, puisque ce sont les deux questions qui sont liées. Et donc, je vais vous parler de la famille, d'abord en raison de la saison estivale, car il faut bien penser à ce que nous allons faire durant ces deux mois d'été, et puis d'autre part, le rapport avec la foi. Juste pour commencer, pour éliminer cette question un peu vulgaire, mais c'est bien de l'éliminer, vous le savez, ici, il est marqué que les frères de Jésus s'appellent Jacques, José, Jude, Simon, et qu'il a des sœurs qu'on ne nomme pas ici. Alors ça, on le sait. Mais comme vous le savez aussi, comme en milieu sémitique, en milieu asiatique, en milieu africain, enfin, ce sont ses cousins, parce que si le Seigneur avait eu des frères et sœurs, ça aurait été une autre disposition, mais ça aurait été très bien aussi, et on le saurait tout simplement, on nous le dirait. Or, par exemple, ce Jacques dont il est question ici, c'est le fils de Cléophas, la sœur de Marie, c'est-à-dire sûrement sa cousine, et puis Jude, c'est peut-être, mais c'est pas certain, Thaddée, le fils de Bar-Yuda. Voilà. Bref, nous sommes en pleine histoire de famille, et ça va être la question, puisque le Seigneur est plongé dans son lieu d'origine, c'est-à-dire parmi les siens. Alors nous, pendant nos vacances, c'est mon premier point, vacances, je dis vacances, moi j'aurai tout de même une semaine en juillet, une semaine en août, alors comme ça, j'ai quand même des vacances, mais pour beaucoup, ça sera aussi de travailler ici, n'est-ce pas ? Ou de rester ici. Alors, nous sommes envoyés parmi un peuple qui a la nuque raide. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Ézéchiel. Et donc, il ne faut pas s'en étonner. Je vous dis ça parce que tous les gens que nous allons rencontrer, que vous soyez en vacances ou pas, c'est des gens que vous allez rencontrer moins souvent que d'habitude. Pour ceux qui seront à Paris, c'est la foule des touristes qui vient nous visiter. Mais c'est aussi les vacanciers que vous allez rencontrer sur votre lieu de vacances, et c'est aussi votre propre famille. Or, c'est un grand avantage de rencontrer des gens qu'on ne voit pas d'habitude, ou de les fréquenter de manière plus intense, puisqu'en fait, votre famille, vous la connaissez, mais vous allez la fréquenter plus intensément. C'est un grand avantage parce que c'est une grande joie de se rapprocher de sa famille, mais c'est aussi un moment d'épreuve. Un moment d'épreuve de vérité, parce que chacun dans une famille ne vit pas toujours pareillement, et c'est plutôt bien, alors il nous faudra continuellement témoigner de notre foi et ne pas s'étonner, tout comme le Seigneur, que c'est plus difficile de témoigner parmi les siens que de témoigner parmi des étrangers. Pourquoi ? Parce que dans sa famille, on est reçu comme on est connu depuis toujours et en quelque sorte, on se connaît bien et on a déjà une petite prédisposition les uns envers les autres. Alors, il ne faut jamais rien changer en famille. Oui, c'est comme dans une paroisse. Il ne faut jamais rien changer parce que ça bouleverse tout le monde. Voilà. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. En famille non plus, avec la délicatesse nécessaire, si d'un seul coup vous avez décidé de prier, eh bien, il faut aller prier. Ne soyez pas étonné vous-même d'être difficilement reçu. On le sait, par exemple, dans une famille, quand on annonce, par exemple, des décisions un peu fortes, c'est-à-dire une entrée au séminaire ou dans un noviciat, quand on annonce la venue d'un nouvel enfant, eh bien cela toujours suscite beaucoup de commentaires. Et de se dire en général, on le connaissait déjà, pourquoi est-ce qu'il change ? Pourquoi est-ce qu'il leur fallait vraiment encore un enfant ? Vraiment ? Je connais ça dans ma famille, où j'ai pas mal de cousins qui ont beaucoup d'enfants, et souvent, les grands-parents, ou même les parents de ses propres parents, s'étonnent en disant « bon ». C'est toujours un petit bouleversement d'être en famille parce qu'on est tout proche. Mais l'avantage, c'est qu'on se connaît bien, et donc la porosité est plus grande. Vous aurez besoin de faire moins d'efforts. Peut-être qu'il faudra plus prendre sur vous, mais les efforts que vous ferez en famille porteront plus. Un petit effort en famille vaut un grand bénéfice. Parce qu'en famille, on est sensible. Aussi, je vous invite, non pas à ne plus être vous-même, mais à l'être avec beaucoup de délicatesse. Parce qu'en famille, on peut se faire, comme on est tout proche l'un de l'autre, on peut se faire plus de mal, mais aussi plus de bien. C'est ce que notre Seigneur expérimente parmi les siens, parmi tous ceux qui le connaissent et qui s'étonnent qu'il prêche aussi bien, qu'il dise tant de choses, Alors, c'est pas pour ça qu'il faut toujours dire amen à tout, hein. En général, quand on entre au séminaire, moi, j'ai deux cousins plus jeunes que moi qui sont prêtres maintenant. J'ai trois cousines religieuses, j'aime à le rappeler. Hein. Alors, c'est vrai, quand on entre au séminaire ou que d'un seul coup, ou qu'on va se marier, hein, ben, on en parle à tout le monde, un peu trop parfois. Alors, la famille est là aussi pour vous tempérer, c'est vrai. Mais elle est là aussi pour recevoir le témoignage de votre vie, car elle est là, je l'ai dit à ceux qui se fiançaient tout à l'heure, pour vous accompagner. Alors n'ayez pas peur d'être en pleine contradiction, même en famille, non pas pour le plaisir de contredire, mais pour le plaisir de pouvoir échanger ce que vous êtes vraiment. Alors quelques conseils justement de prière. Parce que pendant les vacances, ou tout du moins pendant la période d'été, c'est l'occasion de faire les choses qu'on ne fait pas d'habitude. Prière, lecture, pèlerinage. Vous pourriez mettre en œuvre ces trois résolutions. La première, la prière, d'une manière différente. Je reviens de Bretagne où j'ai prêché les exercices spirituels, voilà, pendant 5 jours. Et donc, voilà, c'était une trentaine de personnes qui s'étaient rendues disponibles pour aller prier d'une manière plus intense, plus longue que d'habitude. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut tous faire une retraite. Vous pouvez, hein, si vous voulez. Mais tous, nous pourrions prendre, je vais même prendre 4 jours de recollection pour moi, mais tous, vous pourriez prendre un temps plus intense pour relire votre année, pour la relire devant Dieu, pour voir où vous en êtes. C'est rare qu'on fasse ça, parce que dans la vie, on n'a pas le temps, ça tourne tout le temps, il faut recevoir, il faut les enfants, il faut le travail, il faut etc. Alors, peut-être, si vous avez un peu plus de temps pendant les vacances, vous pourriez vous arrêter 2, 3, 4 heures, une demi-journée. Passez-la dans une abbaye, un monastère, passez-la en forêt, passez-la, bref, dans un endroit tranquille où vous serez sans le Dieu téléphone avec vous, hein, où vous pourrez prier un autre Dieu, celui qui se laisse connaître sans sonner, c'est-à-dire discrètement. Voilà, c'est important. Un petit temps de retraite, c'est toujours bon. Deuxième chose, de lire. Alors, je ne le dis pas là parce qu'il y a Jean-François Rode qui est là. Il va même vous ouvrir les chopes hein, si on le pousse un tout petit peu. Mais ce n'est pas pour ça, je ne savais pas qu'il serait là. Hein. Mais il est bon de se former un peu. Se former selon les capacités de notre désir. Mais vous pouvez lire la vie d'un saint, vous pouvez lire le dernier texte du pape qui parle de la sainteté, sa lettre encyclique. Vous pouvez lire bien des choses. Là, je vous renvoie à la fin de la messe. Vous irez chercher les conseils nécessaires auprès de notre diacre, qui est l'expert en la matière. Bref, ne partez pas sur votre lieu de villégiature sans un livre spirituel. Parce qu'on ne donne pas ce qu'on n'a pas, et il nous faut nous réconforter, nous consoler, nous former pour pouvoir aussi donner aux autres. Troisième conseil, mais les trois sont possibles, hein. Faites donc un petit pèlerinage. Alors, quand je vous dis un pèlerinage, je ne vous dis pas qu'il va falloir aller à Saint-Jacques-de-Compostelle à genoux. Vous faites ce que vous voulez, hein. Ça, voilà, voyez, avec un conseil avisé. Mais un pèlerinage, ça peut se faire en 1 heure. Hein. Où que vous soyez, sur quelques lieux que vous serez, il y aura sûrement une église. Et donc, vous pouvez, de chez vous, en famille, avec les enfants, avec vos petits-enfants, vous pouvez aller en pèlerinage, voilà, jusqu'à un lieu et en revenir. Vous savez à quoi sert un pèlerinage ? Ça sert à rien. Hein. Enfin, humainement. C'est-à-dire, on part de chez soi, on va au lieu de pèlerinage, on revient, et voilà. Cela sert parce que c'est une offrande au Seigneur, un temps qu'on lui consacre, un temps où on marche vers lui. Alors, en fonction de vos forces, de 20 minutes à 2 heures, faites comme bon vous semble, mais vous pourriez faire, en famille, c'est très facile à faire ensemble, un petit pèlerinage. Voilà, c'était mon premier point où je voulais un peu balayer au seuil de ces congés, eh bien, ou en tout cas de cette période, comment vous pouvez envisager. Je voudrais dans un deuxième point voir, peut-être un peu plus proche de l'Évangile, ce qui s'est passé avec notre Seigneur. Le manque de foi et l'étonnement. D'abord, le manque de foi. Et oui, c'est la fin de l'Évangile qu'on a entendu, enfin de cette péricope, où on nous dit, ben voilà, en raison de leur manque de foi, il ne fit pas beaucoup de miracles. Alors, ce n'est pas parce qu'on est avec des gens qui manquent de foi parce que lui, le Seigneur, sait tout, mais nous, nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas juger la foi des gens. Et parfois, c'est étonnant. Hein? Parfois, il y a des grandes déclarations de foi, et puis il n'y a plus rien. Et parfois, il y a parfois même des déclarations d'athéisme, et on peut trouver des attitudes de foi. Alors, il ne s'agit pas de juger les autres, de se dire, voilà, lui, il a de la foi comme ci, comme ci, comme ça. Il s'agit d'annoncer le Seigneur par sa vie. Et d'abord par sa vie. En enseignant, vous avez vu, ils ont peu de foi, mais le Seigneur imposa tout de même les mains. Premier signe sacramentel qu'on a dans l'Église, hein, le plus ancien, imposer les mains. Alors vous pouvez imposer les mains stricto sensu. Vous savez que les parents ont un pouvoir pour bénir leurs enfants. Hein. Les prêtres ont la charge de tout bénir, et tout le monde. Voilà. Mais les parents ont un pouvoir tout spécial, hein, qui leur est député par l'Église, de bénir leurs enfants. C'est pas marqué, mais j'imagine que ça marche sur les petits-enfants. Hein? En tout cas, je vous incite, quoi qu'il arrive, à dire du bien de votre famille, et spécialement aux parents, à bénir les enfants. Parce que c'est ainsi que vous allez montrer votre foi et inciter à la foi. Avant de penser que les autres n'ont pas de foi, il faut encore leur apporter. Il faut apporter la vôtre, bien entendu. Mais il est vrai qu'en l'absence totale de foi, plus rien de surnaturel n'est possible. Pourquoi ? Non pas que le Seigneur ait réduit son pouvoir, c'est qu'il ne veut pas imposer son pouvoir à ceux qui n'en veulent pas. La foi, c'est la confiance en Dieu, fides, confides, confiance, c'est la même chose. Et si vous ne donnez pas votre confiance, vous ne pourrez jamais recevoir vraiment de quelqu'un, quoi que ce soit. C'est le lieu de ceux qui s'engagent dans le chemin de la préparation du mariage, mais c'est vrai pour tout le monde. Si vous ne faites pas confiance, mais par avance, vous fermez la porte à tout bien que vous pourriez recevoir. Et c'est ce qui leur arrive ici. Ils n'ont pas confiance. C'est pas possible. On le connaît déjà. On l'a déjà enfermé dans un a priori. Lui, qu'il se contente de faire des charpentes, et ça sera bien, on en a besoin, on a besoin de beaucoup de charpentiers, c'est un métier important, hein. Et donc voilà, on enferme l'autre dans une prédisposition qui nous empêche, en fait, de recevoir et l'autre, et la grâce que Dieu a mise en lui, c'est-à-dire l'inattendu de la grâce divine, surnaturelle, qui devrait normalement nous surprendre. Car oui, c'est le dernier point que je voulais soulever, ils sont surpris, et ça c'est bien. C'est l'attitude essentielle. Parce que si vous passez parmi votre famille, si vous passez parmi les vacanciers que vous allez rencontrer, ou même les touristes, et que rien ne vous étonne, c'est peut-être que vous ne les avez pas regardés. Parce que le monde est étonnant. Les gens sont étonnants. Alors bien sûr, si vous n'ouvrez pas les yeux, ben vous n'allez rien voir. Il faut s'intéresser vraiment. Et le Seigneur, en enseignant, n'enseigne pas les yeux fermés, il enseigne en regardant les uns ou les autres. Et c'est pour ça qu'il a vu la raison de leur manque de foi, c'est parce qu'ils ont prédéterminé un jugement sur lui. Alors, si vous étonnez les gens, réjouissez-vous parce que c'est un bon début. Les philosophes antiques disent que l'étonnement, tomatzein, il faut bien que je mette un mot grec pour faire savant, mais que l'étonnement, c'est le début de la connaissance, hein, parce qu'on va commencer à réfléchir, parce qu'on va voir quelque chose qui attire notre regard, intellectuellement ou spirituellement. Alors ce n'est pas grave que vous soyez étonné, et ce n'est pas grave que les gens soient étonnés de votre comportement. Souvent, hein, notre monde, qui est quand même assez déchristianisé, pour ne plus dire, je ne sais même pas s'il faut dire déchristianisé ou qui n'est plus du tout christianisé, hein, s'étonne. S'étonne de nos pratiques, mais avec bonté. Et je vois souvent les gens entrer dans l'église, visiter parce que c'est une belle église en plein centre de Paris, et alors ils observent, et ils regardent. Et quand ils voient un chrétien faire une génuflexion en passant là au milieu, on ne sait pas trop pourquoi, ils se disent, il y a quelque chose. Alors ils s'inclinent, ils font un signe de croix, et voilà. Étonnez donc le monde en lui proposant la foi. On propose beaucoup de gens, beaucoup de choses au monde, hein. on lui propose plein de voyages, plein de choses, plein de connaissances, et c'est très bien. Proposez donc la foi. Quelque manière qu'elle soit reçue, vous serez certainement remarqué. Et ça sera bien. Il ne s'agit pas de nous cacher, il s'agit d'annoncer à temps et à contre-temps la grâce que nous avons de vivre avec le Seigneur et de savoir qu'il s'est révélé à nous. Alors n'hésitez pas à le faire. Et si malencontreusement vous tombiez sur, comme le Seigneur, des gens qui après s'être étonnés sont choqués, eh bien c'est dommage pour eux. Priez pour eux, mais ne changez pas d'un iota. Ces gens qui sont choqués parce que ils ne veulent pas recevoir. Alors c'est leur problème, c'est leur choix, leur liberté. Tout comme le Seigneur, nous n'allons pas forcer la liberté des autres, nous allons malgré tout la proposer. Juste avant de partir prêcher cette retraite, je passais dans un collège qui m'est familier, et c'était les examens. C'était des examens pour une grande école qui étaient accueillis. Et comme d'habitude, comme tous les ans, en fait, je suis arrivé à ce moment-là, il y a un professeur qui n'était pas de cette école, mais qui venait pour examiner, et qui dit « Ah, comme c'est un examen laïque, mais je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs un examen laïque, bon, peut-être interrogé sur la laïcité, en fait, ce n'était pas ça, c'était des sciences, alors je ne vois pas très bien ce que c'est qu'un examen laïque de sciences, mais enfin, bref, ce n'est pas grave. Comme c'était un examen laïque, évidemment, il y a un professeur qui a dit « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas retirer les croix ?» Parce que, quand même. Alors, je suis allé voir les professeurs. J'ai dit, mais je comprends votre souci. Mais si vraiment, non, c'est pas possible. Parce que ici, c'est comme ça qu'on est. Alors, on vous accueille tous. Vous n'avez pas besoin de faire votre prière pour faire l'examen. Enfin, c'était les professeurs, c'est eux qui allaient vérifier, c'est pas les élèves. Vous n'avez pas besoin de faire votre prière. À mon avis, ça serait utile, mais vous n'en avez pas besoin. En revanche, si vous n'en voulez pas, je suis désolé, mais c'est comme je suis. Ici, c'est comme l'école est. Alors avec grande joie, nous accueillons les athées, les croyants de toutes les religions, et proclamer la foi n'a jamais été l'asservissement de quelqu'un d'autre, sauf à penser que la liberté est bien peu de chose, que de voir un crucifix vous enlève la liberté que vous avez de croire ou de ne pas croire, de prier ou de ne pas prier. Voilà cette attitude, peut-être, pendant les vacances, sans provocation, sans chercher à mettre un coup de crucifix sur la tête à quiconque, eh bien, vous pouvez simplement dire à votre famille que le dimanche, vous, c'est plutôt la messe le matin, pas le matin, le soir, la veille au soir, vous y allez quand vous voulez, hein. Dieu est grand, et que vous pouvez faire un signe de croix, que cela ne va pas les empêcher ni de prier, ni de ne pas prier. Soyez ferme et délicat, et laissez à chacun la possibilité, peut-être, d'entendre le Christ lui parler. Amen.